Edmond Abou, Germaine. Chapitre 1, les étrennes de la duchesse. Vers le milieu de la rue de l'Université, entre le numéro 51 et le 57, on voit quatre hôtels qui peuvent compter parmi les plus beaux de Paris. Le premier appartient à M. Pozzo di Borgo, le second au comte de Mailly, le troisième au duc de Choiseul, le dernier au baron de Senlier. C'est celui qui fait l'angle de la rue Bellechasse. L'hôtel de Senlier est une habitation de noble apparence. La porte cochère s'ouvre sur une cour d'honneur, soigneusement sablée et tapissée de treilles centenaires. La loge du Suisse est à gauche, cachée sous un lierre épais où les moineaux et les portiers babillent à l'unisson. Au fond de la cour, à droite, un large perron, abrité sous une marquise, conduit au vestibule et au grand escalier. Le rez-de-chaussée et le premier sont occupés par le baron, tout seul. Il jouit sans partage d'un vaste jardin borné par d'autres jardins, peuplés de fauvettes, de merles et d'écureuils qui vont de l'un chez l'autre en pleine liberté, comme s'ils étaient habitants d'un bois et non citoyens de Paris. Les armes de Senlier, peintes à la cire, se répètent sur tous les murs du vestibule. C'est un sanglier d'or sur champ de gueule. L'écusson est supporté par deux lévriers et surmonté d'un tortille de baron avec cette légende « Sang lié au roi ». Une demi-douzaine de lévriers vivants, groupés suivant leur fantaisie, s'agacent au pied de l'escalier, mordillent les véroniques en fleurs dans les vases du Japon ou s'aplatissent sur le tapis en allongeant leur tête serpentine. Les valets de pied, assis sur des banquettes de Beauvais, se croisent solennellement les bras, comme il convient à des gens de bonne maison. Le 1er janvier 1853, vers les 9h du matin, tous les domestiques de l'hôtel tenaient sous le vestibule un congrès tumultueux. L'intendant du baron, M. Anatole, venait de leur distribuer leurs étrennes. Le maître d'hôtel avait reçu 500 francs, le valet de chambre 250, le moins favorisé de tous, le marmiton, contemplait avec une tendresse inexprimable deux beaux louis d'or tout neufs. Il y avait des jaloux dans l'assemblée, mais pas un mécontent, et chacun disait en son langage que c'est plaisir de servir un maître riche et généreux. Ces messieurs formaient un groupe assez pittoresque, autour d'une débouche du calorifère. Les plus matineux avaient déjà la grande livrée. Les autres portaient encore le gilet à manches, qui est la petite tenue des domestiques. Le valet de chambre était tout de noir habillé, avec des chaussons de lisière. Le jardinier ressemblait à un villageois endimanché. Le cocher était en veste de tricot et en chapeau galonné. Le Suisse en baudrier d'or et en sabots. On apercevait, çà et là, le long des murs, un fouet, une étrille, un bâton à cirer, une tête de loup, et des plumeaux, dont je ne sais pas le nombre. Le maître dormait jusqu'à midi, en homme qui a passé la nuit au club. On avait bien le temps de se mettre à l'ouvrage. Chacun faisait d'avance emploi de son argent. Et les châteaux en Espagne allaient bon train. Tous les hommes, petits et grands, sont de la famille de Perrette qui portait un pot au lait. « Avec ça, est-ce que j'ai de côté ?» disait le maître d'hôtel. « J'arrondirai ma rente viagère. On a du pain sur la planche, Dieu merci, et l'on ne se laissera manquer de rien sur ces vieux jours. »« Parbleu !» reprit le valet de chambre. « Vous êtes garçon, vous n'avez que vous à penser. Mais moi, j'ai de la famille. » Aussi, je donnerai mon argent à ce petit jeune homme qui va à la bourse. Il me tripotera quelque chose. C'est une idée, ça, monsieur Ferdinand, repartit le marmiton. Portez-lui donc mes 40 francs quand vous irez. Le valet de chambre répondit d'un ton protecteur. Est-il jeune? Qu'est-ce qu'on peut faire à la bourse avec 40 francs? « Allons, » dit le jeune homme en étouffant un soupir, « je les mettrai à la caisse d'épargne. » Le cocher partit d'un gros éclat de rire. Il frappa sur son estomac en criant « ma caisse d'épargne, à moi, la voici. C'est là que j'ai toujours placé mes fonds, et je m'en suis bien trouvé. Pas vrai, père Altroff ?» Le père Altroff, suisse de profession, alsacien de naissance, grand, vigoureux, ossu, pansu, large des épaules, énorme de la tête, et aussi rubicon qu'un jeune hippopotame, sourit du coin de l'œil et fit avec sa langue un petit bruit qui valait un long poème. Le jardinier, fine fleur de Normand, fit sonner son argent dans sa main et répondit à l'honorable préopinant « Allez, marchez, ce qu'on a bu, on ne l'a plus. Il n'est tel placement qu'une bonne cachette dans un vieux mur ou dans un arbre creux. Argent bien enfoui, les notaires ne la mangent point. » L'assemblée se récria sur la naïveté du bonhomme qui enterrait ses écus tout vifs au lieu de les faire travailler. 15 ou 16 exclamations s'élevèrent en même temps. Chacun dit son mot, trahit son secret, enfourcha son dada, secoua sa marotte. Chacun frappa sur sa poche et caressa bruyamment les espérances certaines, le bonheur clair et liquide qu'il avait emboursé le matin. L'or mêlait sa petite voix aiguë à ce concert de passions vulgaires, et le cliquetis des pièces de 20 francs, plus capiteux que la fumée du vin ou l'odeur de la poudre, enivrait ses pauvres cervelles et accélérait le battement de ses cœurs grossiers. Au plus fort du tumulte, une petite porte s'ouvrit sur l'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Une femme, vêtue de haillons noirs, descendit vivement les degrés, traversa le vestibule, ouvrit la porte vitrée et disparut dans la cour. Ce fut l'affaire d'une minute. Et pourtant, cette sombre apparition éteignit la joie de tous ses valets en belle humeur. Ils se levèrent sur son passage avec les marques d'un profond respect. Les cris s'arrêtèrent dans leur gosier et l'or ne sonna plus dans leur poche. La pauvre femme avait laissé derrière elle comme une traînée de silence et de stupeur. Le premier qui se remit fut le valet de chambre, un esprit fort. « Sapristi ! » cria-t-il. « J'ai cru voir passer la misère en personne. Voilà mon jour de l'an gâté dès le matin. Vous verrez que rien ne me réussira jusqu'à la Saint-Sylvestre. Brrr, j'ai froid dans le dos. » « Pauvre femme, » dit le maître d'hôtel, « ça a eu des 1000 et des 100, et puis voilà. Qui est-ce qui croirait que c'est une duchesse ? C'est son gueux de mari qui lui a tout mangé. Un joueur, un homme sur sa bouche, un coureur qui trotte du matin au soir avec ses vieilles jambes à la suite de tous les cotillons. C'est pas lui qui m'intéresse, il n'a que ce qu'il mérite. « Sait-on comment va mademoiselle Germaine ? Leur négresse m'a dit qu'elle était au plus bas. Elle crache le sang à plein mouchoir. Et pas des tapis dans sa chambre. Cet enfant-là ne guérirait que dans les pays chauds, à Florence ou en Italie. Ça fera un ange au ciel du bon Dieu. C'est ceux qui restent qui sont à plaindre. Je ne sais pas comment la duchesse sortira de là. Des comptes à n'en plus finir chez tous les fournisseurs, le boulanger parle de leur refuser crédit. Combien ont-ils de loyers là-haut ? 800. Mais je m'étonne si monsieur a jamais vu la couleur de leur argent. Si j'étais de lui, j'aimerais mieux laisser le petit appartement vacant que de garder des personnes qui font tâche dans l'hôtel. Es-tu bête ? Pour qu'on ramasse sur le pavé le duc de la Tour d'Ambleuse et sa famille ? Ces misères-là, vois-tu, c'est comme les plaies du faubourg, nous avons tous intérêt à les cacher. « Tiens, » dit le marmiton, « je m'en moque pas mal. Pourquoi qu'ils ne travaillent pas ? Les ducs sont des hommes comme les autres. »« Garçon, » reprit gravement le maître d'hôtel, « tu dis des choses incohérentes. La preuve qu'ils ne sont pas des hommes comme les autres, c'est que moi, ton supérieur, je ne serai pas seulement baron pendant une heure de ma vie. D'ailleurs, la duchesse est une femme sublime, et elle fait des choses dont ni toi ni moi ne serions capables. Mangerais-tu du bouilli pendant un an à tous les repas ?
Dame, ça n'est pas amusant, le bouilli.
Eh bien, la duchesse met le pot-au-feu tous les deux jours, parce que son mari n'aime pas la soupe maigre. Monsieur dîne d'un bon tapioca au gras, avec un beefsteak ou une paire de côtelettes. Et la pauvre sainte femme avale jusqu'au dernier morceau de gîte qui se bouillit dans la maison. Est-ce beau, cela ?
Le marmiton fut touché dans l'âme.
« Mon bon monsieur Tournois, dit-il au maître d'hôtel, c'est des gens bien intéressants. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur faire passer quelques douceurs en s'entendant avec leur négresse ?
Ah, oh, bien oui, elle est aussi fière qu'eux. Elle ne voudrait rien de nous. Et cependant, m'est avis qu'elle ne déjeune pas tous les jours. »
Cette conversation aurait pu durer longtemps si monsieur Anatole n'était venu l'interrompre. Il entra juste à point pour couper la parole au chasseur qui ouvrait la bouche pour la première fois. L'assemblée se dispersa en toute hâte. Chaque orateur emporta ses instruments de travail et il ne resta dans la salle des délibérations qu'un de ces balais gigantesques qu'on appelle « tête de loup ». Cependant, Marguerite de Bisson, duchesse de la Tour d'Embleuse, cheminait à pas pressés dans la direction de la rue Jacob. Les passants, qui la frôlèrent du coude en courant, donnaient au recevoir des étrennes, la trouvèrent semblable à ces Irlandaises désespérées qui piétinent sur le macadam des rues de Londres à la poursuite d'un penny. Fille des ducs de Bretagne, femme d'un ancien gouverneur du Sénégal, la duchesse était coiffée d'un chapeau de paille teinte en noir dont les brides se tordaient comme des ficelles. Une voilette d'imitation, percée en 5 ou 6 endroits, cachait mal son visage et lui donnait une physionomie étrange. Cette belle tête, marquée de taches blanches d'inégale grandeur, semblait défigurée par la petite vérole. Un vieux crêpe de Chine, noirci par les soins du teinturier et roussi par les intempéries de l'air, laissait tomber tristement ses 3 pointes dont la frange effleurait la neige du trottoir. La robe qui se cachait là-dessous était si fatiguée que le tissu était méconnaissable. Il eût fallu l'examiner de bien près et à la loupe pour reconnaître une moire ancienne, démoirée, limée, coupée dans les plis, effrangée par en bas et dévorée par la boue corrosive du pavé de Paris. Les souliers qui supportaient ce lamentable édifice n'avaient plus ni forme ni couleur. Le linge ne se montrait nulle part, ni au col, ni aux manches. Quelquefois, au passage d'un ruisseau, la robe se relevait à droite et laissait voir un bas de laine grise, un simple jupon de futaine noire. Les mains de la duchesse, rougies par un froid piquant, se cachaient sous son châle. Elle traînait les pieds en marchant, non par une habitude de nonchalance, mais dans la peur de perdre ses souliers. Par un contraste que vous avez pu observer quelquefois, la duchesse n'était ni maigre, ni pâle, ni enlaidie en aucune façon par la misère. Elle avait reçu de ses ancêtres une de ces beautés rebelles qui résistent à tout, même à la faim. On a vu des prisonniers qui engraissaient dans leur cachot jusqu'à l'heure de la mort. À l'âge de 47 ans, Madame de la Tour d'Embleuse conservait de beaux restes de jeunesse. Ses cheveux étaient noirs et elle avait 32 dents capables de broyer le pain le plus dur. Sa santé était moins florissante que sa figure, mais c'est un secret qui restait entre elle et son médecin. La duchesse touchait à cette heure dangereuse et quelquefois mortelle où la femme disparaît pour faire place à l'aïeul. Plus d'une fois, elle avait été saisie par des suffocations étranges. Elle rêvait souvent que le sang la prenait à la gorge pour l'étouffer. Des chaleurs inexplicables lui montaient au cerveau par bouffées et elle s'éveillait dans un bain de vapeur animale où elle s'étonnait de ne point mourir. Le docteur Lebris, un jeune médecin et un vieil ami, lui recommandait un régime doux, sans fatigue et surtout sans émotion. Mais quelle âme stoïcienne aurait traversé sans s'émouvoir de si rudes épreuves ? Le duc César de la Tour d'Embleuse, fils d'un des immigrés les plus fidèles au roi et les plus acharnés contre le pays, fut récompensé magnifiquement des services de son père. En 1827, Charles X le nomma gouverneur général de nos possessions dans l'Afrique occidentale. Il était à peine âgé de 40 ans. Pendant 28 mois de séjour dans la colonie, il tint tête aux morts et à la fièvre jaune. Puis il demanda un congé pour venir se marier à Paris. Il était riche grâce aux milliards d'indemnités. Il doubla sa fortune en épousant la belle Marguerite de Bisson, qui possédait à Saint-Brieuc 60 000 livres de rente. Le roi signa son contrat le même jour que les ordonnances, et le duc se trouva marié et destitué tout d'un coup. Le nouveau pouvoir l'aurait accueilli volontiers dans la foule des transfuges. On dit même que le ministère de Casimir Perier lui fit quelques avances. Il dédaigna tous les emplois, par fierté d'abord, et autant par une invincible paresse. Soit qu'il eût dépensé en 3 ans tout ce qu'il avait d'énergie, soit que la vie facile de Paris le retint par un attrait irrésistible. Son seul travail pendant 10 ans fut de promener ses chevaux au bois et de montrer ses gants jaunes au foyer de l'opéra. Paris était un pays nouveau pour lui, car il avait vécu à la campagne sous la férule inflexible de son père jusqu'au jour où il partit pour le Sénégal. Il goûta si tard à tous les plaisirs qu'il n'eut pas le temps de se blaser. Tout lui parut bon, les jouissances de la table, les satisfactions de la vanité, les émotions du jeu et même les joies austères de la famille. Il montrait dans sa maison l'empressement d'un jeune mari et dans le monde la fougue d'un fils de famille émancipé. Sa femme était la plus heureuse de France, mais elle n'était pas la seule dont il fit le bonheur. Il pleura de joie à la naissance de sa fille, vers l'été de 1835. Dans l'excès de son bonheur, il acheta une maison de campagne à une danseuse dont il était fou. Les dîners qu'il donnait chez lui n'avaient point de rivaux, si ce n'est les soupers qu'il donnait chez sa maîtresse. Le monde, qui est toujours indulgent pour les hommes, lui pardonna ce gaspillage de sa vie et de sa fortune. On trouva qu'il faisait galamment les choses, puisque ses plaisirs du dehors n'éveillaient pas un écho douloureux dans sa maison. En bonne justice, pouvait-on lui reprocher de répandre un peu partout le trop-plein de sa bourse et de son cœur? Aucune femme ne plaignit la duchesse, et en effet, elle n'était pas à plaindre. Il évitait soigneusement de se compromettre. Il ne se montrait en public qu'avec sa femme, et il aurait mieux aimé manquer une partie que de l'envoyer seule au bal. Cette vie en partie double, et les ménagements dont un galant homme sait envelopper ses plaisirs, eurent bientôt entamé son capital. Rien ne coûte plus cher à Paris que l'ombre et la discrétion. Le duc était trop grand seigneur pour compter avec personne. Il ne sut jamais rien refuser à sa femme ni à la femme d'autrui. Ne croyez pas qu'il ignorât les brèches énormes qu'il faisait à sa fortune, mais il comptait sur le jeu pour tout réparer. Les hommes, à qui le bien est venu en dormant, s'habituent à une confiance illimitée dans le destin. Monsieur de la Tour d'Embleuse était heureux comme celui qui prend les cartes pour la première fois. On estime que ses gains de l'année 1841 doublèrent son revenu et au-delà. Mais rien ne dure en ce monde, pas même le bonheur au jeu. Il en fit bientôt l'expérience. La liquidation de 1848, qui mit à nu tant de misère, lui apprit qu'il était ruiné sans ressources. Il aperçut sous ses pieds un abîme sans fond. Un autre aurait perdu l'esprit. Il ne perdit pas même l'espérance. Il alla droit à sa femme et lui dit gaiement « Ma chère Marguerite, cette maudite révolution nous a tout pris. Nous n'avons pas 1 000 francs à nous. » La duchesse ne s'attendait pas à semblable nouvelle. Elle songea à sa fille et pleura amèrement. « Ne craignez rien, lui dit-il. C'est un orage qui passe. Comptez sur moi. Je compte sur le hasard. » On dit que je suis un homme léger. Tant mieux, je reviendrai sur l'eau. » La pauvre femme essuya ses larmes et lui dit «
Bien, mon ami. Vous travaillerez ?
Moi ? Fi donc, j'attendrai la fortune. C'est une capricieuse. Elle est trop bien avec moi pour me quitter de but en blanc sans esprit de retour. »
Le duc attendit 8 ans dans un petit appartement de l'hôtel de Sanlier, au-dessus des écuries. Ses anciens amis, dès qu'ils eurent le temps de se reconnaître, l'aidèrent de leur bourse et de leur crédit. Il emprunta sans scrupule un homme qui avait beaucoup prêté sans billet. On lui offrit plusieurs emplois, tous honorables. Une compagnie industrielle voulut l'adjoindre à son conseil de surveillance, avec une allocation qui valait un traitement. Il refusa, de peur de déroger. « Je veux bien vendre mon temps, dit-il, mais je n'entends pas prêter mon nom. » C'est ainsi qu'il descendit, un à un, tous les échelons de la misère, décourageant ses amis, fatiguant ses créanciers, se fermant toutes les portes, usant son nom qu'il ne voulait pas compromettre, mais sans jamais prendre au sérieux l'habit râpé qu'il promenait dans les rues, et sa cheminée sans feu, faute de 2 morceaux de bois. Le 1er janvier 1853, la duchesse portait au Mont-de-Piété son anneau de mariage. Il faut être bien destitué de tout secours humain pour engager un objet d'aussi mince valeur qu'un anneau de mariage. Mais la duchesse n'avait pas un centime à la maison, et l'on ne vit pas sans argent, quoique la confiance soit le grand ressort du commerce de Paris. On se procure bien des choses sans les payer, lorsqu'on peut jeter sur le comptoir du marchand un beau nom et une adresse imposante. Vous pouvez meubler votre maison, remplir votre cave et monter votre garde-robe sans faire voir aux fournisseurs la couleur de vos écus. Mais il y a 1000 dépenses quotidiennes qui ne se font que la bourse à la main. Un habit se prend à crédit, mais le raccommodage se paie comptant. Il est quelquefois plus facile d'acheter une montre que d'acheter un chou. La duchesse avait chez quelques fournisseurs un restant de crédit qu'elle ménageait avec un soin religieux. Mais quant à l'argent, elle ne savait où le prendre. Le duc de la Tour d'Ambleuse ne possédait plus d'amis. Il les avait dépensés comme le reste de sa fortune. Tel camarade de collège nous aime jusqu'à concurrence de 1000 francs. Tel compagnon de plaisir et homme à nous prêter 100 louis. Tel voisin charitable représente une valeur de 1000 écus. Passé un certain chiffre, le prêteur est dégagé de tous les devoirs de l'amitié. Il n'a rien à se reprocher. Il a bien fait les choses. Il ne vous doit plus rien. Il a le droit de détourner les yeux lorsqu'il vous rencontre et de défendre sa porte quand vous entrez chez lui. Les amis de la duchesse s'étaient détachés d'elle l'une après l'autre. L'amitié des femmes est assurément plus chevaleresque que celle des hommes. Mais dans l'un et l'autre sexe, on n'a d'affection durable que pour ses égaux. On éprouve un plaisir délicat à gravir 2 ou 3 fois un escalier difficile et à s'asseoir en grande toilette auprès d'un grabat. Mais il est peu d'âmes assez héroïques pour vivre familièrement avec le malheur d'autrui. Les plus chers amis de la pauvre femme, celle qu'il appelait Marguerite, avaient senti leur cœur se refroidir dans cet appartement sans tapis et sans feu. Elle n'y venait plus. Lorsqu'on leur parlait de la duchesse, elle faisait son éloge, elle la plaignait sincèrement. Elle disait « Nous nous aimons toujours, mais nous ne nous voyons presque jamais. C'est la faute de son mari. » Dans ce délaissement lamentable, la duchesse avait eu recours au dernier ami des malheureux, au créancier qui prête à gros intérêts, mais sans objection et sans reproche. Le Mont-de-Piété gardait ses bijoux, ses fourrures, ses dentelles, le meilleur de son linge et de sa garde-robe, et l'avant-dernier matelas de son lit. Elle avait tout engagé sous les yeux du vieux duc, qui regardait partir une à une toutes les pièces de son mobilier et leur souhaitait gaiement un bon voyage. Cet incompréhensible vieillard vivait dans sa maison comme Louis XV dans son royaume, sans souci de l'avenir, et disant « Après moi le déluge !» Il se levait tard, déjeunait de bon appétit, passait une heure à sa toilette, teignait ses cheveux, plâtrait ses rides, mettait du rouge, polissait ses ongles et promenait ses grâces dans Paris jusqu'à l'heure du dîner. Il ne s'étonnait point de voir un bon repas sur la table, et il était trop discret pour demander à sa femme où elle l'avait trouvé. Si la pitance était maigre, il en faisait son deuil et souriait à la mauvaise fortune comme autrefois à la bonne. Lorsque Germaine commença à tousser, il la plaisanta agréablement sur cette mauvaise habitude. Il fut longtemps sans voir qu'elle dépérissait. Le jour où il s'en aperçut, il éprouva une vive contrariété. Quand le docteur lui annonça que la pauvre enfant ne pouvait être sauvée que par miracle, il l'appela « médecin tant pis » et dit en se frottant les mains « Allons, allons, cela ne sera rien ». Il ne savait pas bien lui-même s'il prenait ses airs dégagés pour rassurer sa famille ou si sa légèreté naturelle l'empêchait de sentir la douleur. Sa femme et sa fille l'adoraient tel qu'il était. Il traitait la duchesse avec la même galanterie qu'au lendemain du mariage et il faisait sauter Germaine sur ses genoux. La duchesse ne le soupçonna jamais d'être la cause de sa ruine. Elle voyait en lui, depuis 23 ans, un homme parfait. Elle prenait son indifférence pour du courage et de la fermeté. Elle espérait en lui, malgré tout, et le croyait capable de relever sa maison par un coup de fortune. Germaine avait 4 mois à vivre, au sentiment du docteur Lebris. Elle devait tomber au premier jour du printemps. Les lilas blancs auraient le temps de fleurir sur sa tombe. Elle pressentait sa destinée et jugeait son état avec une clairvoyance bien rare chez les phtisiques. Peut-être même avait-elle soupçon du mal qui minait sa mère. Elle couchait à côté de la duchesse et dans ses longues nuits d'insomnie, elle s'effrayait quelquefois du sommeil haletant de sa chère garde-malade. « Quand je serai morte, pensait-elle, « maman me suivra de près. Nous ne nous quitterons pas pour longtemps. Mais que deviendra mon père ?» Tous les soucis, toutes les privations, toutes les douleurs physiques et morales habitaient ce petit coin de l'hôtel sans lier. Et dans Paris, où la misère abonde, il n'y avait peut-être pas une famille plus complètement misérable que celle de la tour d'Ambleuse, qui possédait pour dernière ressource un anneau de mariage. La duchesse courut d'abord à la succursale du Mont-de-Piété qui est située dans la rue Bonaparte, auprès de l'école des Beaux-Arts. Elle trouva la maison fermée. N'était-ce pas jour de fête? L'idée lui vint que le commissionnaire de la rue de Condé aurait peut-être ouvert sa boutique. Elle remonta le faubourg jusqu'à la rue de Condé. Porte close. Alors elle ne sut plus où s'adresser, car les établissements de ce genre ne sont pas communs au faubourg Saint-Germain. Cependant, comme il ne fallait pas que le duc commençât l'année par le jeûne, elle entra chez un petit bijoutier du carrefour de l'Odéon et elle vendit sa bague pour 11 francs. Le marchand promit de la garder 3 mois à sa disposition dans le cas où elle voudrait la racheter. Elle noua l'argent dans un coin de son mouchoir de poche et marcha sans s'arrêter jusqu'à la rue des Lombards. Elle entra chez un droguiste, acheta un flacon d'huile de foie de morue pour Germaine, traversa la halle, choisit une langouste et un perdreau, et revint, crottée jusqu'aux genoux, à l'hôtel de Sanlier. Il lui restait 40 centimes. L'appartement qu'elle occupait alors est une construction légère, ajoutée il y a quelque 30 ans au commun de l'hôtel. Les 4 pièces qui le composent sont séparées par des cloisons de bois. L'antichambre s'ouvre d'un côté sur le salon, de l'autre sur un long couloir qui mène à la chambre du duc. On passe du salon à la chambre de la duchesse et de là dans la salle à manger qui termine l'enfilade et relie la chambre de la duchesse à celle de son mari. Madame de la Tour d'Ambleuse trouva dans l'antichambre son unique servante, la vieille Sémiramis, qui pleurait silencieusement sur une feuille de papier. « Qu'est-ce que tu tiens là ?» lui dit-elle. « Madame, c'est tout ce que le boulanger a apporté. nous n'aurons plus de pain si nous ne donnons pas d'argent. »
La duchesse prit le mémoire. Il se montait à plus de 600 francs.
« Ne pleure pas, dit-elle, voici un peu de monnaie. Va chez le boulanger de la rue du Bac. Tu prendras un petit pain viennois pour monsieur et pour nous du pain à la livre. Emporte ceci dans ta cuisine, c'est le déjeuner de monsieur.
Germaine est-elle éveillée ?
Oui, madame, le médecin l'a vue à 10 heures. Il est encore dans la chambre de monsieur le duc. »
Sémiramis sortit, et madame de la Tour d'Embleuse se dirigea vers la chambre de son mari. Comme elle ouvrait la porte, elle entendit la voix du duc, claire, joyeuse et brillante comme une fusée.
« 50 000 francs de rente ? » disait le vieillard.
« Je savais bien que la veine me reviendrait. » Chapitre 2. La demande en mariage. Le docteur Charles Lebris est un des hommes les plus aimés de Paris. La grande ville a ses enfants gâtés dans tous les arts. Je n'en sais pas un qu'elle choisit avec plus de tendresse. Il est né dans une méchante petite ville de Champagne, mais il a fait ses études au collège Henri IV. Un sien parent, qui exerce la médecine au pays, l'a destiné de bonne heure à la médecine. Le jeune homme a suivi les cours, fréquenté les hôpitaux, concouru pour l'internat, pratiqué sous l'œil des maîtres, enlevé tous ses diplômes et gagné certaines médailles qui font l'ornement de son cabinet. Sa seule ambition était de succéder à son oncle et de finir les malades que le bonhomme avait commencés. Mais lorsqu'on le vit apparaître, armé de ses succès et docteur jusqu'aux dents, les officiers de santé du lieu et son oncle, qui n'était pas autre chose, lui demandèrent pourquoi il ne s'était pas fixé à Paris. Il joignait au talent des formes si séduisantes, et son grand paletot lui allait si bien, qu'on devina au premier jour que tous les malades seraient pour lui. Le parent vénérable se trouva beaucoup trop jeune pour songer à la retraite, et la rivalité de son neveu lui rendit des jambes qu'il n'avait plus. Bref, le pauvre garçon fut si mal reçu, et l'on mit tant de bâtons dans ses roues, que de désespoir, il revint à Paris. Ses anciens maîtres l'avaient jugé. On lui fit une clientèle. Les grands hommes ont le moyen de n'être pas jaloux. Grâce à leur générosité, la réputation du docteur Lebris s'est faite en 5 ou 6 années. On l'aime ici comme savant, là comme danseur, et partout comme un charmant homme de bien. Il ignore les premiers éléments du charlatanisme, parle fort peu de ses succès et abandonne à ses malades le soin de dire qu'il les a guéris. Son appartement n'est pas un temple. Il loge au 4e étage dans un quartier perdu. Est-ce modestie? Est-ce coquetterie? On ne sait. Les pauvres gens de son quartier ne se plaignent pas d'un tel voisinage. Il les soigne avec tant d'application qu'il oublie quelquefois sa bourse au chevet de leur lit. Monsieur Lebris était depuis 3 ans le médecin de mademoiselle de la Tour d'Embleuse. Il avait suivi les progrès de la maladie, sans pouvoir rien faire pour les arrêter. Ce n'était pas que Germaine fût une de ces enfants condamnés dès leur naissance, qui portent en elle le germe d'une mort héréditaire. Sa constitution était robuste, sa poitrine large, et sa mère n'avait jamais toussé. Un rhume négligé, une chambre froide, la privation des choses nécessaires à la vie, avaient causé tout le mal. Peu à peu, malgré les soins du docteur, la pauvre fille avait pâli comme une statue de cire. Ses forces s'en étaient allées. L'appétit, la gaieté, le souffle, la joie de respirer l'air liquide, tout lui manquait. 6 mois avant le début de cette histoire, monsieur Lebris avait réuni 2 grands médecins auprès de la malade. Elle pouvait encore être sauvée. Il lui restait un poumon, et la nature se contenta moins. Mais il fallait l'emmener sans retard en Égypte ou en Italie. « Oui, dit le jeune docteur, la seule ordonnance à faire est celle-ci. Une maison de campagne au bord de l'Arno. Une vie calme et des rentes. Mais voyez. Il désigna du doigt les rideaux déchirés, les chaises de paille et le carreau rouge du salon. Voici ce qui la condamne à mort. Au mois de janvier, le dernier poumon était entamé. Le sacrifice s'accomplissait. Le docteur avait reporté ses soins sur la duchesse. Son dernier espoir était d'endormir doucement la fille et de sauver la mère. Il fit sa visite à Germaine. Il tâta le pouls pour la forme, lui offrit une boîte de bonbons, la baisa fraternellement au front et passa chez monsieur de la Tour d'Ambleuse. Le duc était encore au lit. Sa figure n'était pas faite et il portait ses 63 ans. « Eh bien, beau docteur, dit-il en riant aux éclats, quelle année nous apportez-vous? La fortune voudra-t-elle enfin de moi? Ah, friponne, si jamais je te tiens! Vous êtes témoin, docteur, que je l'attends dans mon lit. Monsieur le duc, répondit le docteur, puisque nous sommes seuls ensemble, nous pouvons causer de choses sérieuses. Je ne vous ai pas caché l'état de mademoiselle votre fille. Le duc fit une petite moue sentimentale et dit « Vraiment, docteur, il n'y a plus rien à espérer. Pas de fausse modestie, vous êtes capable d'un miracle. » Monsieur le briocha tristement la tête. « Tout ce qui est en mon pouvoir, reprit-il, est d'adoucir ces derniers jours. » « Pauvre petite, figurez-vous, cher docteur, qu'elle tousse à me réveiller toutes les nuits. Elle doit souffrir cruellement, quoi qu'elle s'en défende. S'il n'y a plus aucun espoir, sa dernière heure sera une heure de délivrance. » Ce n'est pas tout ce que j'avais à vous dire, et pardonnez-moi si je commence l'année par de tristes nouvelles. » Le duc se leva sur son séant. « Quoi donc? Vous me faites peur !» « Madame la duchesse m'inquiète depuis quelques mois. »« Ah, pour le coup, docteur, vous abusez des mauvais augures. La duchesse, grâce à Dieu, est en bon point, et je voudrais me porter comme elle. » Le docteur entra dans des détails qui abattirent l'insouciance et la légèreté du vieillard. Il se vit seul sur la terre, et un frisson le saisit. Sa voix baissa d'un ton. Il s'attacha à la main du docteur comme un noyé à la dernière branche. « Mon ami, lui dit-il, sauvez-moi, je veux dire, sauvez la duchesse, je n'ai plus qu'elle au monde. Qu'est-ce que je deviendrai? C'est un ange, mon ange gardien. Dites-moi ce qu'il faut faire pour la guérir, j'obéirai en esclave. » « Monsieur le duc, il faut, à madame la duchesse, une vie calme et facile, sans émotion, et surtout sans privation, un régime doux, des aliments choisis et variés, une maison confortable, une bonne voiture. « Et la lune, n'est-ce pas ? » cria le duc avec impatience. « Je vous croyais plus d'esprit, docteur, et de meilleurs yeux. Voiture, maison, une bonne nourriture. Allez me les chercher si vous voulez, je les lui donne. » Le docteur répondit sans se troubler. « Je vous les apporte, monsieur le duc, et vous n'avez qu'à prendre. » Les yeux du vieillard s'écarquillèrent comme ceux d'un chat qui passe à l'ombre. « Parlez donc ! » cria-t-il. « Vous me retournez sur le grill. » « Avant de rien vous dire, monsieur le duc, j'ai besoin de vous rappeler que je suis depuis 3 ans le meilleur ami de votre maison. » « Vous pouvez dire le seul. Personne au monde ne vous démentira. » « L'honneur de votre nom m'est aussi cher qu'à vous, et si... »« C'est bon, c'est bon !»« N'oubliez pas que la vie de madame la duchesse est en danger, que je réponds de la sauver, pourvu que vous m'en fournissiez les moyens. »« Que diable! C'est à vous de me les fournir! Vous me parlez depuis 1 heure comme le péripatéticien du mariage forcé. Au fait, docteur, au fait !»« M'y voici. » « Avez-vous jamais rencontré dans Paris le comte de Villanera ?»« Les chevaux noirs ?»« Précisément. Le plus bel attelage de Paris. » »« Don Diego Gomez de Villanera est le dernier rejeton d'une grande famille napolitaine transplantée en Espagne sous le règne de Charles Quint.
Sa fortune est la plus grande de toute la péninsule. S'il cultivait ses terres et s'il exploitait ses mines, il se ferait 2 ou 3 millions de revenus. En attendant, il a 1 400 000 francs de rente, un peu moins que le prince Yusupov. Il a 32 ans, une jolie figure, une éducation exquise, un caractère honorable. Ajoutez, et Madame Chemidi ?
Puisque vous savez cela, vous m'abrégez le chemin. Le comte, pour des raisons qui seraient trop longues à déduire, veut quitter Madame Chemidi et se marier, suivant son rang, dans une des familles les plus illustres du faubourg. Il recherche si peu la fortune qu'il assurera à son beau-père 50 000 francs de rente. Le beau-père qu'il désire, c'est vous. Il m'a chargé de sonder vos dispositions. Si vous dites oui, il viendra aujourd'hui même vous demander la main de mademoiselle votre fille, et le mariage sera fait dans 15 jours.
Pour le coup, le duc sauta à bas du lit et regarda le docteur entre les deux yeux.
« Vous n'êtes pas fou ?» lui dit-il. « Vous ne vous moquez pas de moi ? Vous ne pouvez pas oublier que je suis le duc de la Tour d'Ambleuse et que j'ai le double de votre âge. Est-ce bien vrai ce que vous m'avez dit ?»«
La vérité toute pure. »
« Mais il ne sait donc pas que Germaine est malade ?»«
Il le sait. »«
Mourante ?»«
Il le sait. »«
Condamnée ?»«
Il le sait. »
Un nuage passa sur la figure du vieux duc. Il s'assit au coin de la cheminée froide, sans s'apercevoir qu'il était presque nu. Il appuya les coudes sur ses genoux et serra sa tête entre ses mains.
« Cela n'est pas naturel, reprit-il. Vous ne m'avez pas tout dit. » Et monsieur de Villanera doit avoir quelque motif secret pour demander la main d'une morte.
En effet, répondit le docteur, mais veuillez vous remettre au lit. C'est toute une histoire à raconter. Le duc revint se pelotonner sous la couverture. Ses dents claquaient de froid et d'impatience, et il attachait ses petits yeux sur le docteur avec la curiosité inquiète d'un enfant qui regarde ouvrir une boîte de bonbons. Monsieur de Brie ne le fit pas attendre.
« Vous savez, lui dit-il, quelle est la position de Madame Chemidi ?
Veuve consolable d'un mari qu'on n'a jamais vu.
J'ai rencontré Monsieur Chemidi il y a 3 ans, et je vous réponds que sa femme n'est pas veuve.
Tant mieux pour lui ! Peste ! Mari de Madame Chemidi ! C'est une sinécure qui doit rapporter de beaux appointements.
Voilà comme on fait des jugements téméraires. Monsieur Chemidi est un honnête homme, et même un officier de quelque mérite. Je ne crois pas qu'il soit parti de bien haut. À 35 ans, il était dans la marine marchande, capitaine au long cours. Il obtint d'être embarqué sur un navire de l'État comme enseigne auxiliaire, et après 2 ans de service, le ministre lui signa un brevet d'officier. C'est en 1838 qu'il mit son cœur et son épaulette au pied d'Honorine Lavenaz. Elle avait pour tout bien ses 18 ans, les grands yeux que vous savez, un bonnet d'arlésienne qui la coiffait à ravir, et une ambition sans limite. Elle n'était pas, à beaucoup près, aussi belle qu'aujourd'hui. Je sais de sa propre bouche qu'elle était sèche comme un coup de bâton et noire comme un petit corbeau. Mais elle était en vue et partant souhaitée. Elle régnait au comptoir d'un bureau de tabac et, depuis le préfet maritime jusqu'aux élèves de 2e classe, toute l'aristocratie nautique de Toulon venait fumer et soupirer autour d'elle. Mais rien ne put faire tourner cette forte tête, ni la vapeur de l'encens, ni la fumée du cigare. Elle s'était jurée d'être sage jusqu'à ce qu'elle eût trouvé un mari, et nulle séduction ne la fit démordre de sa vertu. Les officiers l'avaient surnommée « Croquet » pour sa dureté. Les bourgeois l'appelaient « Uloa » parce qu'elle était assiégée par la marine française. Les épouseurs sérieux ne lui manquaient pas. On en trouve abondamment dans les ports de mer. Au retour de longues traversées, l'officier de marine a plus d'illusions, plus de naïveté, plus de jeunesse qu'il n'en avait le jour du départ. La première femme qui se présente à ses yeux,
lui apparaît aussi belle et aussi sainte que la France retrouvée. C'est la patrie en robe de soie. Le bonhomme, cher Midi, simple comme un loup de mer, fut préféré pour sa candeur. Il croqua cette brebis récalcitrante à la barbe de ses rivaux. Cette bonne fortune qui aurait pu lui faire des ennemis ne nuisit en rien à son avenir. Quoiqu'il vécût à l'écart, seul avec sa femme, dans une bastide isolée, il obtint un fort joli commandement sans l'avoir demandé. Depuis cette époque, il n'a vu la France qu'à très rares intervalles. Toujours en mer, il a fait des économies pour sa femme, qui, de son côté, économisait pour lui. Honorine, embellie par la toilette, par l'aisance et par l'embonpoint, cette richesse du corps, a régné 10 ans sur le département du Var. Les seuls événements qui aient signalé son règne sont la faillite d'un fournisseur de charbon et la destitution de 2 officiers payeurs. À la suite d'un procès scandaleux où son nom ne fut pas prononcé, elle jugea à propos de se montrer sur une plus vaste scène et elle prit l'appartement qu'elle occupe encore dans la rue du Cirque. Son mari naviguait vers les bancs de Terre-Neuve tandis qu'elle roulait sur Paris. « Vous avez assisté à ses débuts, monsieur le duc. »« Oui, morbleu, et j'ose dire que peu de femmes ont mieux fait leur chemin. Ce n'est rien d'être jolie et d'avoir de l'esprit. Le grand art consiste à se poser en millionnaire, et c'est ainsi qu'on se fait offrir des millions. » Elle est arrivée ici, avec 200 000 ou 300 000 francs grappillés discrètement dans les bureaux. Elle a fait au bois une telle poussière que vous auriez dit que la reine de Saba venait de débarquer à Paris. En moins d'une année, elle a fait parler de ses chevaux, de ses toilettes et de son mobilier, sans qu'on pût rien dire de positif sur sa conduite. Moi qui vous parle, je lui ai donné des soins pendant 18 mois, avant d'apercevoir le bout de l'oreille. J'aurais gardé longtemps mes illusions, si le hasard ne m'avait mis en présence de son mari. Il tomba chez elle, avec sa malle, un jour que j'y étais en visite. C'était dans les premiers jours de 1850, il y a 3 ans, ou peu s'en faut. Le pauvre diable arrivait de Terre-Neuve avec un pied de halle sur la figure. Il repartait à la fin du mois pour une station de 5 ans dans les mers de la Chine, et il trouvait naturel d'embrasser sa femme entre les 2 voyages. La livrée de ses gens lui fit cligner les yeux. Et il fut ébloui des splendeurs de son mobilier. Mais lorsqu'il vit apparaître sa chère Honorine dans une petite toilette du matin qui représentait 2 ou 3 années de sa solde, il oublia de tomber dans ses bras, vira de bord sans dire un mot et fit porter ses bagages au chemin de fer de Lyon. C'est ainsi que Monsieur Chermidy m'a fait entrer dans la confidence de madame. J'en ai bien appris d'autres par le comte de Villanera. Arrivons-nous ? Demanda le duc. Un instant de patience. Madame Chermidy avait distingué Don Diego quelque temps avant l'arrivée du mari. Elle était sa voisine au balcon des Italiens, loge à loge, et elle sut le regarder avec de tels yeux qu'il se fit présenter chez elle. Tous les hommes vous diront que son salon est un des plus agréables de Paris. Quoi qu'on n'y rencontre jamais une autre femme que la maîtresse de la maison. Mais elle se multiplie. Le comte se passionna pour elle, par le même esprit d'émulation qui avait perdu le malheureux cher Midi. Il l'aima d'autant plus aveuglément qu'elle lui laissa tous les honneurs de la guerre et parut céder à un penchant irrésistible qui la jetait dans ses bras. L'homme le plus spirituel se laisse prendre à cette amorce, et il n'y a point de scepticisme qui tienne contre la comédie de l'amour vrai. Don Diego n'est pas un étourdi sans expérience. S'il avait deviné un motif d'intérêt, surpris un mouvement calculé, il se mettait en garde et tout était perdu. Mais la fine mouche poussa l'habileté jusqu'à l'héroïsme. Elle épuisa toutes les ressources de son budget et employa son dernier sou à faire croire au comte qu'elle l'aimait pour lui. Elle exposa même sa réputation, dont elle avait pris tant de soin, et elle se serait compromise follement, s'il n'y eût mis bon ordre. La comtesse douairière de Villanera, une sainte femme, belle de vieillesse et de roideur, et semblable à un portrait de Velasquez échappé du cadre, eut connaissance des amours de son fils et n'y trouva rien à redire. Elle aimait mieux le voir lié à une femme du monde que perdu dans les plaisirs faciles où l'on se ruine et l'on s'avilit. La délicatesse de Madame Chermidy était si chatouilleuse que Don Diego ne put jamais lui donner une bagatelle. La première chose qu'elle accepta de lui, après un an d'intimité, fut une inscription de 40 000 francs de rente. Elle était grosse d'un fils qui naquit en novembre 1850. Maintenant, monsieur le duc, nous sommes au cœur de la question. Madame Chermidy a fait ses couches au village de la Bretèche-Saint-Nom, derrière Saint-Germain. J'étais là. Don Diego, ignorant nos lois et croyant que tout est permis aux personnes de sa condition, voulait reconnaître l'enfant. Les aînés de la famille Villanera sont marquis de Los Montes de Hierro. Je lui expliquai l'axiome de droit, is pater est, et je lui prouvai que son fils devait s'appeler Chermidy ou ne pas s'appeler du tout. Le commandant avait traversé Paris au mois de janvier, juste à point pour sauver les apparences. Nous délibérions auprès du lit de l'accouchée. Elle s'écria que son mari la tuerait infailliblement si elle essayait de lui imposer cette paternité légale. Le comte ajouta que le marquis de Los Montes de Hierro ne consentirait jamais à signer Chermidy. Bref, je déclarai l'enfant à la mairie sous le nom de Gomez, né de parents inconnus. Le jeune père, heureux et malheureux à la fois, a fait part de cet événement à la vénérable comtesse. Elle a voulu voir l'enfant, elle se l'est fait apporter, et on l'élève auprès d'elle, dans son hôtel du faubourg Saint-Honoré. Il a 2 ans, il vient bien, et il ressemble déjà aux 24 générations des Villanera. Don Diego adore son fils. Il ne se console pas de voir en lui un enfant sans nom, et qui puisait adultérin. Madame Chermidy serait femme à remuer des montagnes, pour assurer à son héritier le nom et la fortune des Villanera. Mais la plus à plaindre est la pauvre douairière. Elle prévoit que Don Diego ne se mariera pas, de peur de déshériter son fils bien-aimé, qu'il dénaturera sa fortune pour la lui rendre en main propre, qu'il vendra les terres de la famille, et que de ce beau nom et de ce grand domaine, il ne restera rien au bout de 50 ans. Dans cette extrémité, Madame Chermidy a trouvé un trait de génie. Elle a dit à Don Diego « Mariez-vous, cherchez une femme dans la première noblesse de France et obtenez que, par l'acte du mariage, elle reconnaisse votre enfant comme sien. À cette condition, le petit Gomez sera votre fils légitime, noble de père et de mère, héritier de tous vos biens d'Espagne. Ne songez pas à moi, je m'immole. » Le comte a soumis ce projet à sa mère. Elle signera des 2 mains. La noble femme a perdu ses illusions sur Madame Chermidy, qui coûte plus de 4 millions à Don Diego, et qui parle de se retirer dans une chaumière pour pleurer son bonheur en pensant à son fils. Monsieur de Villanera est dupe de cette fausse résignation. Il croirait commettre un crime en abandonnant une héroïne de l'amour maternel. Enfin, pour imposer silence à ses scrupules, Madame Chermidy lui a soufflé 4 mots à l'oreille. « Mariez-vous pour quelque temps. Le docteur vous cherchera une femme parmi ses malades. » J'ai pensé à Mademoiselle de la Tour d'Ambleuse, et je me suis ouvert à vous, monsieur le duc. Ce mariage, si étrange qu'il paraisse à première vue, et quoi qu'il vous donne un petit-fils qui n'est pas de votre sang, assure à Mademoiselle Germaine une fin douce et une prolongation d'existence. Il sauve la vie à Madame la Duchesse, et enfin, il me donne 50 000 livres de rente, n'est-ce pas? Eh bien, cher docteur, je vous remercie. Dites à Monsieur de Villanera que je suis son serviteur. Ma fille est peut-être à enterrer, mais elle n'est pas à vendre.
Monsieur le duc, c'est un marché que je vous propose. Mais si je le croyais indigne d'un galant homme, je ne m'en mêlerais pas, croyez-le bien.
Parbleu, docteur, chacun entend l'honneur à sa manière. Nous avons l'honneur du soldat, l'honneur du boutiquier et l'honneur du gentilhomme, qui ne me permet pas d'être le grand-père du petit cher Midi.
Ah, monsieur de Villanera prétend légitimer ces bâtards. C'est du Louis XIV tout pur. Mais nous sommes alliés à la famille de Saint-Simon. 50 000 francs de rente. J'en ai eu 120 000, monsieur, sans avoir jamais rien fait, ni bien ni mal. Je ne me dérangerai pas des traditions de mes ancêtres pour en gagner 50.
Veuillez remarquer, monsieur le duc, que la famille de Villanera est digne de s'allier à la vôtre. Le monde n'aura rien à dire.
Il ne manquerait plus que de m'offrir un gendre roturier. J'avoue qu'en toute autre circonstance, Don Diego Gomez de Villanera serait bien mon fait. Il est né, et j'ai entendu louer sa famille et sa personne. Mais que diable! Je ne veux pas qu'on dise « Mademoiselle de la Tour d'Ambleuse avait un fils de 2 ans le jour de son mariage. »
On ne dira rien. On ne saura rien. La reconnaissance sera secrète. Et quand on en parlerait? Ni la loi ni la société ne font de différence entre un enfant légitimé et un enfant légitime.
Voyez-vous, Germaine, à Saint-Thomas-d'Aquin, devant le maître-autel, sous le poêle, avec monsieur de Villanera à sa droite, madame Chermidy à sa gauche, un bambin de 2 ans sur les bras, et le croque-mort par derrière? C'est tout simplement abominable, mon pauvre docteur. N'en parlons plus. Est-ce bien compliqué, ces cérémonies de reconnaissance?
Il n'y a point de cérémonie. Une phrase dans l'acte de mariage et l'état de l'enfant est en règle.
Cette phrase-là est de trop. N'en parlons plus. Pas un mot à la duchesse. Vous me le promettez?
Je vous le promets.
Quoi, vraiment, elle est si mal, cette pauvre duchesse. Mais elle trotte comme à 15 ans.
L'état de madame la duchesse est sérieux.
Et vous croyez en bonne foi qu'on la guérirait avec des rentes?
Je répondrais de sa vie si j'obtenais de vous...
Vous n'obtiendrez rien du tout. Ah, je suis de la vieille roche, moi. Et voyez si j'ai du mérite à vous refuser. Nous n'avons peut-être pas 10 louis à la maison. Foi de gentilhomme, si quelqu'un mourait ici, je ne sais pas où l'on trouverait de quoi l'enterrer.
Tant pis. Tant pis. Noblesse oblige. Le duc de la Tour d'Ambleuse ne prend pas de petits garçons en sevrage.
Et surtout le petit garçon de madame Chermidy. Je finirai plutôt sur la paille.
Docteur, je suis content que vous m'ayez mis à l'épreuve, et je ne vous en veux pas. On ne se connaît jamais bien soi-même, et je n'étais pas trop sûre de la figure que je ferais en présence de 50 000 francs de rente. Vous avez tâté le pouls à mon honneur, et il se porte bien, Dieu merci.
Monsieur de Villanera offrirait-il le capital ou seulement la rente?
À votre choix, monsieur le duc.
Et j'ai choisi la misère, au guet. Mais quand je vous disais que la fortune était une capricieuse, je la connais de longue date. Nous avons été tantôt bien, tantôt mal ensemble. La voilà qui me fait des avances, mais ni ni.
Adieu, cher docteur.
Monsieur de Brie se leva de sa chaise. Le duc le retint par la main.
« Remarquez, lui dit-il, que je fais une chose héroïque. Vous n'êtes pas joueur? Connaissez-vous les cartes? »
« Je joue le whist. »
« Alors vous n'êtes pas joueur. Apprenez, mon ami, que lorsqu'on a une seule fois laissé passer la veine, elle ne revient jamais. En refusant vos propositions, je renonce à toute espèce d'avenir. » Je me condamne à perpétuité.
Acceptez donc, monsieur le duc, et ne défiez pas la fortune contraire.
Quoi? Je vous apporte dans mes mains la santé pour madame la duchesse, l'aisance pour vous, une fin douce et tranquille pour la pauvre enfant qui s'éteint dans des privations de toutes sortes. Je relève votre maison qui croulait dans la poussière, je vous donne un petit-fils tout fait, un enfant magnifique qui pourra joindre votre nom à celui de son père, et tout cela à quel prix?
moyennant une phrase de 2 lignes insérées dans un acte de mariage. Et vous me repoussez comme un marchand de honte et un donneur de mauvais conseils. Vous aimez mieux condamner votre fille, votre femme et vous-même que de prêter votre nom à un enfant étranger. Vous croiriez commettre un crime de lèse-noblesse. Mais ne savez-vous pas à quel prix la noblesse s'est conservée en France et partout depuis les croisades? Il faut admettre la raison d'État. Combien de noms sauvés par miracle ou par adresse? Combien d'arbres généalogiques rajeunis par une greffe plébéienne?
Mais presque tous, cher docteur. Je vous en citerai plus de 20 sans sortir de la rue.
D'ailleurs, les vilainéras sont plus que bons. On peut s'allier à ces gens-là. À une condition pourtant. C'est que l'affaire se fasse au grand jour, sans hypocrisie. Ma fille peut reconnaître un enfant étranger, dans l'intérêt de 2 grandes maisons de France et d'Espagne. Si quelqu'un demande pourquoi, on lui répondra par la raison d'État. Et vous sauverez la duchesse.
Jean répond.
Vous sauverez ma fille aussi. Le docteur hocha lentement la tête. Le vieillard reprit d'une voix résignée.
Allons, on ne peut pas avoir tout à la fois.
Pauvre enfant, nous aurions bien voulu partager notre aisance avec elle. 50 000 francs de rente. Je savais bien que la veine me reviendrait.
La duchesse entra là-dessus, et son mari lui résuma avec une admiration enfantine les offres de Monsieur le Prix. Le docteur s'était levé pour donner sa chaise à la pauvre femme qui courait sans repos depuis le matin. Elle s'accouda sur le lit face à face avec le duc et elle écouta, les yeux fermés, tout ce qu'il voulut lui dire. Le vieillard, mobile comme un homme dont la raison est mal assise, avait oublié ses propres objections. Il ne voyait plus qu'une chose au monde, 50 000 francs de rente. Il poussa l'étourderie jusqu'à parler à la duchesse des dangers qu'elle courait et de sa vie à sauver. Mais cette révélation glissa sur son cœur sans l'entamer. Elle rouvrit les yeux et les tourna tristement vers le docteur. « Eh bien, lui dit-elle, Germaine est donc condamnée sans ressources, puisque cette femme veut la faire épouser à son amant ?» Le docteur essaya de lui persuader que toute espérance n'était pas perdue. Elle l'arrêta du geste et lui dit « Ne mentez pas, mon pauvre ami, ces gens-là ont mis leur confiance en vous. Ils vous ont demandé une fille assez malade et assez désespérée pour qu'on n'eût pas à craindre de la voir guérir. Si elle vivait par quelque accident, si un jour elle venait se placer entre deux pour réclamer ses droits et chasser la maîtresse, Monsieur de Villanera vous reprocherait de l'avoir trompé. Vous ne vous êtes pas exposé à cela. »
Monsieur Le Bris ne put s'empêcher de rougir, car la duchesse disait vrai. Mais il se tira de ce mauvais pas en faisant l'éloge de Don Diego. Il le dépeignit comme un noble cœur, un chevalier d'autrefois égaré dans notre siècle. « Croyez, madame, dit-il à la duchesse, que si notre chère malade peut être sauvée, elle le sera par son mari. Il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue. Il en aime une autre, et c'est dans un espoir bien triste qu'il se décide à placer une femme légitime entre sa maîtresse et lui. Mais plus il a d'intérêt à attendre le jour de son veuvage, plus il se fera un devoir de le retarder. Non seulement il environnera sa femme de tous les soins que son état réclame, mais il est homme à s'établir garde-malade auprès d'elle et à la veiller nuit et jour. Je garantis qu'il prendra le mariage au sérieux, comme tous les devoirs de la vie. Il est espagnol et incapable de jouer avec les sacrements. Il a un culte pour sa mère et une tendresse passionnée pour son enfant. Soyez sûr que, du jour où vous lui accorderez la main de mademoiselle votre fille, il n'aura plus rien de commun avec madame Chermidy. Il emmènera sa femme en Italie. Je serai du voyage. Vous aussi. Et s'il plaît à Dieu de faire un miracle, nous serons 3 pour l'aider, madame la duchesse.
Parbleu, ajouta le duc, tout est possible, tout arrive. Qu'est-ce qui m'aurait dit ce matin que j'hériterais de 50 000 livres de rente?
À ce mot d'héritage, la duchesse refoula un flot de larmes qui lui montait aux yeux.
« Mon ami,
reprit-elle. C'est une triste chose quand les parents héritent de leurs enfants. S'il plaît à Dieu de rappeler à lui ma pauvre Germaine, je bénirai dans les pleurs sa main rigoureuse et j'attendrai auprès de vous l'instant qui doit nous réunir. Mais je veux que la mémoire de mon cher ange aimé soit aussi pure que sa vie. Je conserve depuis plus de 20 ans un vieux bouquet de fleurs d'oranger, flétri comme mon bonheur et ma jeunesse. Je veux pouvoir l'attacher sur son cercueil.
« Ta, ta, ta !» cria le duc.
« Voilà bien les femmes. Vous êtes malade, madame, et ce n'est pas la fleur d'oranger qui vous guérira. » « Quant à moi, » dit-elle. Son regard acheva la phrase, et le duc lui-même la comprit.
« C'est ça, » dit-il, « à votre aise. Mourez tous ensemble. Et qu'est-ce que je deviendrai, moi ?»«
Vous deviendrez riche, mon bon père !» dit Germaine en ouvrant la porte de la salle à manger. La duchesse se leva comme par ressort et courut à sa fille. Mais Germaine n'avait pas besoin d'être soutenue. Elle embrassa sa mère et s'avança jusqu'au lit d'un pas ferme et résolu, le pas des martyrs. Elle était vêtue de blanc, comme Pauline au 5e acte de Polyeucte. Un pâle rayon du soleil de janvier tombait sur son front et lui faisait une auréole. Sa figure, sans couleur, était comme une page effacée, où l'on ne voyait briller que 2 grands yeux noirs. Une masse de cheveux d'or, fins et touffus, s'entassait sur sa tête. Les beaux cheveux sont la dernière parure des phtisiques. Ils la gardent jusqu'à la fin et on l'enterre avec eux. Ses mains transparentes tombaient le long du corps avec les plis de la draperie. Telle était la maigreur de toute sa personne qu'elle ressemblait à ces créatures célestes qui n'ont aucune des beautés ni des imperfections de la femme. Elle s'assit familièrement au bord du lit, passa le bras droit autour du cou de son père, tendit sa main gauche à la duchesse et l'attira doucement auprès d'elle. Puis elle montra la chaise à Monsieur Lebris et lui dit « « Mettez-vous là, docteur, pour que la famille soit au complet. Je ne me repens pas d'avoir écouté aux portes. J'avais bien peur de n'être plus bonne à grand-chose. Votre discussion m'a appris que je pouvais faire un peu de bien ici-bas. Vous êtes témoin que je ne regrettais point la vie, que j'en avais fait mon deuil depuis plus de 6 mois. Aussi bien ce monde est une triste demeure pour ceux qui ne peuvent pas respirer sans souffrir. » Mon seul regret était de léguer à mes parents un avenir de douleurs et de misères. Me voilà tranquille à présent. J'épouserai le comte de Villanera et j'adopterai l'enfant de cette dame. Merci, cher docteur, c'est vous qui nous sauvez. Grâce à vous, l'inconduite de ces gens-là rendra l'aisance à mon excellent père et la vie à la noble femme que voici. Moi, je ne mourrai pas inutile. Il me restait pour tout bien le souvenir d'une vie pure, un pauvre petit nom sans tache, comme le voile d'une communiante. Je donne cela à mes parents. Maman, je vous prie de ne point hocher la tête. On ne désobéit point aux malades. N'est-ce pas, docteur ?
Mademoiselle, répondit-il en lui tendant la main, vous êtes une sainte.
« Oui, l'on m'attend là-haut. Ma niche est toute prête. Je prierai Dieu pour vous, mon digne ami, qui ne priait guère. » En parlant ainsi, sa voix avait je ne sais quoi d'ailé, d'aérien, de surnaturel, quelque chose qui rappelait la sérénité des cieux. La duchesse tressaillit en l'écoutant. Il lui semblait que l'âme de sa fille allait s'envoler comme un oiseau dont on a laissé la cage ouverte. Elle serra Germaine dans ses bras et lui dit « Non, tu ne nous quitteras point. Nous irons tous en Italie et le soleil te guérira. Monsieur de Villanera est un homme de cœur. » La malade haussa légèrement les épaules et répondit « L'homme dont vous parlez ferait bien mieux de rester à Paris puisqu'il y trouve son plaisir. » Et de me laisser tranquillement payer ma dette. Je sais à quoi je m'engage en prenant son nom. Que dirait-on, grand Dieu, si je leur jouais le tour de guérir? Madame Chermidy me ferait expulser de ce monde par autorité de justice. Docteur, est-ce que je serais forcé de voir monsieur de Villanera?
Monsieur Lebris répondit par un petit signe affirmatif. « Allons, dit-elle, je lui ferai bon visage. Quant à l'enfant, je l'embrasserai bien volontiers. J'ai toujours aimé les enfants. » La duchesse regarda le ciel comme un naufragé regarde le rivage.
« Si Dieu est juste, dit-elle, il ne nous séparera pas. Il nous prendra tous ensemble. »
« Non, chère maman, vous vivrez pour mon père.
Vous, papa, vivez pour vous-même. »«
Je te le promets, »
repartit naïvement le vieillard. Ni la duchesse ni sa fille ne soupçonnèrent l'égoïsme monstrueux qui se cachait sous cette réponse. Elles en furent émues jusqu'aux larmes, et le médecin fut le seul qui sourit.
Sémiramis vint annoncer que le déjeuner de monsieur le duc était sur la table.
« Adieu, mesdames, » dit le docteur, « je vais porter de grandes nouvelles au comte de Villanera. Il est à croire que vous recevrez sa visite aujourd'hui même. »«
Si tôt ?» demanda la duchesse.
« Nous n'avons pas de temps à perdre, » dit Germaine.
« En attendant, » reprit le duc, « il faut aller au plus pressé. Déjeunons. »